accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La nouvelle n'a pas échappé aux écologistes, aux Européens et aux agriculteurs. La France a ravi la troisième place à l'Allemagne en termes de surface agricole bio. Avec 1,1 million d'hectares, elle se rapproche désormais de l'Italie, mais reste encore assez loin de l'Espagne. Les surfaces restent minimes, 4% du total, mais en 5 ans, la production de bio dans l'Hexagone a doublé. Les pouvoirs publics soutiennent la tendance et les agriculteurs sont plus nombreux à faire le choix du sans pesticides. Nicolas Feldman a rencontré l'un d'eux.
Donc là, devant nous, on a un champ de triticale, c'est une céréale, un peu comme du blé, un peu plus rustique. Et là, sur la droite, donc vous avez un champ de luzerne. Et là, au loin, vous voyez donc les champs de labour, ça va être ce champ-là, ça va être un champ de maïs que je vais semer au mois d'avril prochain.
Sur ces 150 hectares de la ferme d'Armenon, située dans l'Essonne, à une trentaine de kilomètres au sud de Paris, Abel Pitois a fait le choix du bio il y a 10 mois.
Mon père s'est installé ici en 76 et moi j'ai repris en 2012. Ça faisait quelques années, même avant de m'installer, que j'étais attiré par ce mode de production, l'agriculture biologique. Je ne m'y retrouvais pas dans cette agriculture conventionnelle et l'utilisation des produits phyto, c'était pas trop ma tasse de thé. Et ce qui me manquait surtout dans l'agriculture conventionnelle, c'est qu'on faisait beaucoup de chimie, mais pas beaucoup d'agronomie. Du coup, j'ai fait pendant 2-3 ans, donc j'étais en agriculture conventionnelle. Et là, en mai 2014, j'ai décidé de convertir l'exploitation. Donc ça prend 2 à 3 ans. Donc ma première récolte certifiée bio, elle sera en 2017.
En attendant, le jeune agriculteur bénéficie d'aides à la conversion. Il reçoit 200 euros par hectare de l'Union européenne, 80 euros de la région Île-de-France, soit au total 39 000 euros pour toute son exploitation. De quoi inciter d'autres céréaliers comme lui à franchir le pas et à se lancer dans une agriculture certes plus contraignante et risquée, mais régulée par un marché stable.
Il y a moins de volatilité sur le marché bio que sur le conventionnel. On a vu là, depuis quelques années une offre restreinte sur les marchés internationaux, donc du coup des cours qui s'enflamment complètement conventionnels. Pendant ce temps-là, l'agriculture biologique, elle n'a pas connu de telle volatilité. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir des conditions climatiques capricieuses et de se prendre un carton au moment de la récolte. Mais en tout cas, en termes de prix, c'est plus stable. Je pense qu'aujourd'hui, produire du bio en France, moi, ça me paraît relativement facile si on est motivé. À partir du moment où on est motivé et que la démarche est personnelle, je pense qu'on peut s'en sortir.
Malgré un ralentissement des conversions ces 2 dernières années, le bio continue de faire de nouveaux adeptes. 100 000 hectares sont en cours de conversion et au total, la France compte plus de 26 500 producteurs bio. Cela représente 7% de la main-d'œuvre agricole française. L'une des vitrines du bio reste la viticulture. Près d'un vignoble sur 10 est converti. Florent Simoneau était au salon de l'agriculture. Au milieu des châteaux Lafitte et autres grands crus, ses bouteilles de morlantulière en Gironde porte toute la feuille étoilée, le sigle du label européen bio. Florent Simoneau baigne dans le vin bio depuis tout petit et il s'accommode des difficultés qui vont avec.
Ça fait 45 ans de bio aujourd'hui. Alors la viticulture, c'est très complexe dans le sens où selon les régions, déjà ce ne sera pas toujours aussi facile. Nous on est dans une région Bordeaux qui est très humide et chaude, donc propice à la maladie. Ensuite, c'est sûr qu'on a des rendements un peu moindres. Parce que forcément, la vigne, on travaille le sol, donc les racines sont plus mises à l'épreuve, on va dire. Donc, si vous voulez, ça demande plus de main-d'œuvre, plus d'heures de travail tracteur, forcément, plus de carburant, etc., etc., quoi. Donc, forcément, ça coûte au minimum 30% plus cher.
Un manque à gagner que les agriculteurs compensent en vendant des produits plus chers sur le marché. Dans les rayons, les prix varient en fonction des produits, mais l'étiquette affiche des tarifs parfois 2 à 3 fois plus chers. Et malgré cet obstacle, le bio continue de gagner du terrain grâce notamment à la mise en place d'une filière efficace pour répondre à une demande en hausse. Étienne Gagneron est le président de l'agence bio.
Depuis de nombreuses années, donc on a essayé d'avoir une progression régulière, d'avoir des politiques publiques qui soient cohérentes. Et puis dans le même temps, on a construit des filières pour que tous les producteurs puissent valoriser leurs produits. Tout ça pour desservir la demande des consommateurs. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ce schéma de développement, il arrive en face de la demande des consommateurs qui est en augmentation croissante aussi. Et donc en 2014, par rapport à 2013, on a une évolution de plus plus 10% de consommation de produits bio, ce qui est quand même un chiffre très important. Même si ça reste un petit secteur, la bio est plus une petite niche, c'est une filière à part entière qui mérite de se développer et de grandir encore.
Et pour l'aider à grandir encore, le ministère de l'Agriculture a lancé l'année dernière le plan Ambition Bio 2017 avec l'objectif de doubler les surfaces agricoles bio d'ici 3 ans et atteindre les 200 000 hectares convertis. De quoi se positionner pour espérer un jour peut-être dépasser l'Espagne, le champion du bio en Europe.
Fait-il bon vivre dans les capitales européennes et lesquelles? Chaque semaine ou presque apporte son lot d'études et de classements mondiaux, la dernière en date, qui est une référence, qui a d'ailleurs donné son nom à un indice, l'indice Mercer, est assez édifiante et pour en parler, on retrouve Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Alors quelles sont les villes européennes plébiscitées par les expatriés pour leur qualité de vie?
Tout d'abord, il faut noter que l'Europe est de loin le continent où les expatriés estiment que l'on vit le mieux. C'est même un véritable plébiscite. Parmi les 10 premières villes du classement publié par le cabinet d'études Mercer, 7 sont situées en Europe occidentale. Seules 3 métropoles d'Amérique du Nord et d'Océanie sont également présentes dans le top 10, et ceci sur un classement de 230 villes. Dans l'ordre, Vienne est sur la première marche de ce podium, Zurich est sur la deuxième, puis Auckland. Et dans les 10 premières, il y a Munich à la 4e place, puis suivent Vancouver, Düsseldorf, Francfort, Genève, Copenhague et Sydney.
Vous l'avez dit, Vienne, Munich, Düsseldorf, Francfort, Zurich et Genève, cela fait 4 villes germaniques et 2 suisses sur les 10 premières. C'est un véritable plébiscite germano-helvétique.
Oui, mais les critères pris en compte pour évaluer la qualité de la vie sont autant d'atouts pour ces villes prospères où tout est luxe, calme et tranquillité. Ces critères sont notamment l'environnement politique et social, la situation économique, les activités culturelles, la qualité de l'enseignement et des services publics et les transports. Il est ainsi évident que le dynamisme économique de l'Allemagne et de la Suisse a été déterminant. Quant à Vienne, qui est en tête de ce classement depuis 2009, elle a, comme Genève, un autre atout, celui d'héberger plusieurs organisations internationales, ce qui attire de nombreux expatriés.
Et comment s'en sortent les villes françaises ?
Franchement, pas très bien. Paris est seulement à la 27e place. De plus, les attentats qui ont touché la capitale française début janvier risquent de la déclasser l'année prochaine. Les responsables de cette enquête avertissent déjà que ce type d'événement risque d'impacter la qualité de vie. Mais pour relativiser ce jugement sévère des expatriés pour la ville lumière, il faut souligner qu'elle est ex aequo avec San Francisco, qui est en tête des villes américaines. New York arrivant, elle, loin derrière, au 44e rang. Seule autre ville de l'Hexagone présente dans ce palmarès, Lyon occupe, elle, la 39e place.
Et quelles sont les villes où, à l'inverse, Daniel, il ne fait pas bon vivre pour les expatriés?
Ce sont les villes considérées comme les plus dangereuses. Ainsi, sans surprise, Bagdad est considérée comme la pire ville où habiter pour un expatrié. Elle est suivie de Bangui en République centrafricaine et de Port-au-Prince en Haïti. Quant à Kiev, elle est à la 176e place du fait, bien évidemment, du conflit à l'est de l'Ukraine.
Mais peut-on se fier à tous ces classements qui finalement sont assez subjectifs?
Sans doute, mais encore une fois, cette étude est originale et intéressante car les personnes interrogées ont testé cette qualité de la vie puisque ce sont des expatriés ayant souvent vécu dans plusieurs pays. Ils jugent donc expérience vécue à l'appui. Cela dit, il faut avoir conscience que ces expatriés bénéficient souvent de hauts revenus.
Les villes les plus sûres, les villes les plus attractives pour le business, les villes où les touristes sont les plus nombreux, on ne compte plus les études comparatives avec des critères différents et donc des classements différents. Pourquoi cette profusion?
Parce que pour une métropole internationale, avoir une bonne image est vitale. La compétition est permanente entre Paris, Londres, Rome, Berlin et les autres. Avec à la clé des salons internationaux, des touristes, des entreprises qui s'implantent, des cadres internationaux disposant d'un fort pouvoir d'achat. Mais bien sûr, ces classements varient selon les personnes sondées et les questions posées. Ainsi, quand l'Institut Ipsos a interrogé l'année dernière plus de 18 000 personnes dans 24 pays, Paris était ex aequo avec Londres dans ce classement des top city of the world. Mais les deux capitales européennes étaient en deuxième position derrière New York. De même, la mairie de Paris a mis en avant, il y a quelques mois, une étude d'Opinionway et de KPMG sur son site internet. Elle situait la capitale au troisième rang des villes les plus attractives de la planète pour les investisseurs, derrière Londres et New York.
Et vous avez encore, je crois, un autre exemple d'étude.
Oui, celui réalisé par The Economist. L'hebdo britannique décerne chaque année le prix de la ville la plus agréable du monde en se basant sur 5 grands critères. La stabilité, la santé, la culture et l'environnement, l'éducation et les infrastructures. Et cette fois, ce sont les métropoles de taille moyenne, situées dans des pays riches avec une faible densité de population, comme l'Australie ou le Canada, qui sont au top, avec Melbourne en palme d'or.
Il n'y a donc pas de ville idéale.
Non, chacune possède généralement un ou plusieurs points forts, mais rares sont celles qui affichent un sans faute. Car à côté de la qualité de vie, le dynamisme économique est déterminant. Je suis désolé, Frédéric, mais la cité du bonheur n'existe pas.
Merci, Daniel. À la semaine prochaine.
À bientôt, Frédéric.
Une mosquée à Cuba, l'idée peut paraître incongrue, mais pas pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui veut financer un lieu de culte pour quelques milliers de musulmans sur l'île. Comment a germé un tel projet ? Les explications à Istanbul d'Anne Andlauer.
Tout a commencé il y a quelques mois quand le président turc, sans qu'on sache trop pourquoi, s'est mis à réécrire l'histoire des Amériques, et plus précisément de la découverte des Amériques. Des marins musulmans sont arrivés sur les côtes américaines en 1178, a-t-il asséné un jour de novembre face à un parterre de dignitaires musulmans venus d'Amérique latine. Recep Tayyip Erdogan en veut pour preuve le journal de bord du célèbre Christophe Colomb, connu pour avoir accosté le Nouveau Monde en 1492. Selon le président turc, dans son journal de bord, Christophe Colomb indique la présence d'une mosquée au sommet d'une montagne à Cuba. C'est le jour de cette annonce que le président turc a levé le voile sur une idée qui ne l'a pas quitté depuis, construire une mosquée à Cuba. Et bien sûr, lorsqu'il a entrepris un voyage sur le continent sud-américain avec un passage par Cuba, le projet est revenu sur le devant de la scène. Recep Tayyip Erdogan affirme avoir entretenu de l'affaire le président Raúl Castro et semble confiant dans sa réponse. La Turquie souhaiterait édifier une mosquée dans le centre historique de la Havane pour les quelques 4000 musulmans de l'île, selon l'estimation invérifiable qu'avance le chef de l'État turc. Seulement, les Turcs ne seraient pas les seuls à s'intéresser au projet. Les Saoudiens les auraient même devancés, si bien que Recep Tayyip Erdogan aurait dit à Raúl Castro, je le cite, que si vous avez promis la mosquée de la Havane à d'autres, alors nous pouvons bâtir la nôtre dans une autre province cubaine. Si rien n'est encore gagné, le dirigeant turc, dont on sait à quel point il aime s'improviser architecte en chef des grands projets de son pays, a déjà une idée pour la mosquée de Cuba. Il aimerait y construire une copie de la célèbre mosquée d'Ortaköy sur les rives du Bosphore. Une mosquée à deux minarets dont l'histoire a oublié qu'elle est l'œuvre d'un architecte arménien de l'Empire ottoman.
L'économie solidaire reste encore très peu développée en Hongrie, mais l'association caritative La Croix de Malte vient de relever le défi à Budapest avec un vrai projet économique de réinsertion, une boulangerie unique dans le pays qui emploie uniquement des accidentés de la vie. Reportage sur place de Florence Labruyère.
C'est un quartier de HLM comme tant d'autres, avec des immeubles gris mais bien tenus. C'est là qu'une boulangerie un peu spéciale s'est installée. Dans l'arrière-boutique, il y a des dizaines de pains dorés et croustillants. Il y a aussi des viennoiseries, et ça, c'est la spécialité d'Imre Egedush, ouvrier pâtissier.
Moi, je fais les pizzas, les pains au chocolat, les chaussons au fromage blanc. La pâte feuilletée, c'est mon rayon. Il y a des jours où on cuit 1400 pièces, et d'autres où on en fait la moitié.
Imre a 60 ans, il n'a pas toujours été boulanger.
Avant, j'étais menuisier, mais on m'a découvert une maladie chronique de l'intestin. Alors, le médecin m'a conseillé de changer de métier. Ma pension d'invalidité partielle, c'est pas assez pour vivre. Heureusement, j'ai mon salaire de boulanger en plus, alors ça va.
La boulangerie a été fondée par l'association hongroise de l'Ordre de Malte. Cette œuvre caritative gère des hôpitaux et des maisons de retraite. Alors pourquoi avoir ouvert une boulangerie ? prix. Explication avec Tomáš Romani, responsable de la communication de l'association.
Avant, on achetait beaucoup de pain tous les jours pour nos maisons de retraite, pour nos foyers d'hébergement et encore pour les sans-abri. Alors on s'est dit que ça valait la peine de créer notre propre boulangerie et de faire le pain nous-mêmes pour nos établissements. Vous savez, on en achetait une sacrée quantité, 400 kilos de pain par jour. Et on voulait aussi créer des emplois. C'est comme ça que tout a commencé.
L'objectif était de créer des emplois solidaires. Sur les 10 employés, 5 ont une capacité de travail réduite. À cause d'une maladie, ils ne peuvent pas fournir de gros efforts. C'est le cas d'Imre, le pâtissier, et de Ildiko, qui est vendeuse. Cette femme souriante de 57 ans a dû arrêter son métier d'infirmière après 2 opérations du dos.
En plus, j'ai eu un infarctus. Ce que j'aime bien ici, c'est comme dans la santé, on est tout le temps en contact avec les gens. Moi, j'aime les relations humaines, alors ce travail n'est pas difficile pour moi.
Ildiko touche le salaire minimum, l'équivalent de 230 euros net. Et quand elle est fatiguée, le directeur de la boulangerie lui accorde volontiers un congé.
En janvier, je lui ai demandé si je pouvais prendre quelques jours. Il m'a donné 2 semaines. Bien sûr, il doit faire tourner la boulangerie, mais il fait attention à nous.
Justement, le patron, Jolt, est dans le pétrin. D'habitude, il s'occupe de la gestion, mais aujourd'hui, il doit mettre la main à la pâte.
On a des petits problèmes de personnel, là. Il y en a un qui a la grippe, un autre en congé maladie, alors je les remplace. Heureusement, je m'y connais un peu.
C'est vous qui avez fait la pâte ?
Oui, c'est moi qui ai fait la pâte feuilletée. En fait, à la base, j'ai une formation de boulanger, mais après, j'ai fait des études. Je suis devenu travailleur social dans un foyer d'hébergement pour les sans-abri. Et il y a 2 ans, j'ai été embauché pour diriger la boulangerie.
Le projet a reçu de nombreux soutiens. Tomáš Romani est responsable de la communication.
On ne paye pas de loyer. On a reçu un soutien du ministère pour les salaires et aussi des dons. Sans ces aides, on n'aurait sans doute pas pu ouvrir la boulangerie.
Et en coopération avec la mairie de l'arrondissement, la boulangerie de l'Ordre de Malte vend aussi du pain à moitié prix aux familles défavorisées du quartier.
Il est désormais connu dans tout Lisbonne. Le barbier Figaro, dans le centre-ville de la capitale portugaise, s'est taillé une réputation de beau macho en interdisant expressément l'accès de son magasin aux femmes. Un sexisme affiché qui ne plaît pas tout le monde, Marilyn Darcy.
À lire le panonceau sur la porte du salon de coiffure indiquant que hommes et chiens peuvent entrer mais pas les femmes, on pense d'abord à une plaisanterie, un trait d'humour un peu lourd certes, mais relativement anodin. Le problème chez le barbier Figaro du centre de Lisbonne, c'est que l'interdiction est réelle. Pas de femmes donc, dès qu'elles entrent, les hommes sont perturbés dans leur intimité alors qu'ils sont en train de subir une transformation de leur apparence, affirme sans rire Fabio, le propriétaire du lieu. Récemment du coup, le salon de coiffure a été envahi par une quinzaine de femmes portant des masques de chiens ou d'épaisses moustaches et qui se sont mises à aboyer et à hurler à la lune pour protester contre cette ségrégation. Une action éclair et une courte vidéo sur le net qui se taille un franc succès. Fabio, le jeune patron du Figaro's Barbershop, assume l'aspect vintage de sa boutique, les coupes courtes des années 20 et la barbe longue des années 30. Ouvert il y a moins de 2 ans, le barbier dérange. On y voit un retour du conservatisme, du repli sur soi provoqué par la crise, une provocation ou un marketing très ciblé. C'est probablement parce qu'il revendique l'interdiction, allant jusqu'à repousser les femmes qui accompagnent leurs maris ou les mères qui amènent leurs enfants, que le coiffeur agace. Car au Portugal, il existe encore beaucoup de salons pour hommes qui semblent tout droit sortis d'un western. Si les femmes n'y entrent pas, rien ne leur interdit, s'indignent les professionnels. L'interdiction est tout simplement assimilée. Le Figaro's, lui, annonce clairement la couleur. Et bien que rien dans la loi ne peut justifier la ségrégation, Fabio a décidé d'attaquer en justice la bande provocante de féministes à qui il veut tailler des croupières à défaut de crinières.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission Accent d'Europe, et sur Facebook. Dans quelques instants, un nouveau rendez-vous avec l'actualité. Pour notre part, on se retrouve dès demain.